Pour cela, nous sommes vos ennemis. Nous sommes contre vos idées, contre vos pensées, vos obscénités, votre chrétienté, votre violence. Nous refusons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital.
Un mot trop et c'est un mort tout en orange.
Les flics tabassent, sortent le P38 et les flics flingue glace.
Les flics, la police c'est le vice.
Et par des keufs se font planer, c'est connu, dans le Parisien t'as que des histoires comme as.
La route du guette, mec, les flics aussi. Vois du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand ta frère meurt, pour eux, un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans voir quoi.
Salut, bonjour.
Salut.
C'est Radio Duo, c'est l'émission numéro 0, il est midi. Donc l'émission numéro 0, c'est un jeudi sur deux, à midi, et rediffusée à 17h. Alors vous pouvez l'écouter sur 89.5, sur Saint-Etienne et ses environs, et puis sur Internet, sur www.radioduo.org. Et donc aujourd'hui, on va parler des... de police, de violence policière, de bavures, enfin c'est pas vraiment des bavures, mais bon, de ce genre de trucs là. Donc on va revenir sur les événements de Villiers-le-Bel, ce qui s'est passé à Villiers-le-Bel, parce que il y a un procès le 21 juin, et donc il y a un mois de solidarité avant le procès, donc des inculpés de Villiers-le-Bel, on verra après plus tard, donc on reviendra sur Villiers-le-Bel, on profitera pour parler de ce qui s'est passé à Vaux-en-Velin. Pareil, ça concerne le fonctionnement de la police. Et on parlera aussi de Firminy et ce qui s'est passé près de chez nous.
Et en même temps que Vaux-en-Velin, on va aussi parler de la Caisse de solidarité de Lyon avec un invité qui est ici dans les studios.
Voilà. Et donc on va commencer par... et on finira par l'agenda, bien sûr. Et on commence... Oui. Toujours l'agenda. Et donc, on commence par un petit montage qui résume un petit peu ou qui revient sur les événements de Villiers-le-Bel. Donc, il y a eu des morts et tout. Et donc, le montage explique un petit peu ce qui s'est passé. Voilà.
Je viens d'une belle enfoirée là-haut, en paix du mal et traumatise les schmitts, où les petits sont en roue en quoi en compète.
Et c'est là, à partir de 3-4 minutes après, on a plus vu les policiers qui sont traités dedans, ils sont partis en fait. Hein. Mm. Là, on a laissé les deux corps comme ça, et c'est les pompiers qui sont occupés jusqu'à la fin.
D'accord.
Voilà. Alors, je vous explique. Le choc, ça s'est passé, vous voyez où il y a la voiture?
Ouais.
Là. C'est là-bas, vous calculez la distance, il y a combien? 20, 30, 40 mètres là d'ici?
40 mètres, 50?
La bécane était ici.
D'accord.
Les deux corps étaient là. Donc si c'est une patrouille de routine, ça veut dire 30 km/h ou 40 km/h, comme dit le ministre de l'Intérieur, Madame Alliot-Marie, ou le préfet, c'est impossible qu'on peut retrouver des corps ici.
certes, c'est une priorité à droite là-bas, vous allez voir. Mais les jeunes ne vont peut-être pas respecter la priorité à droite. Mais la police, quand ils viennent là-haut, il y a une aussi priorité à droite qui doivent respecter de ce côté-là. Moi, je pense que quand ils ont vu les deux jeunes et qu'ils n'arrivent pas à les appréhender depuis le matin, ils ont forcé sur eux pour les faire tomber de leur bécane. On appelle ça le coup de pare-choc, pour les faire tomber, parce que c'est des bécanes de course qui sont entre temps, ils peuvent aller partout. Moi, je pense qu'ils ont voulu le faire tomber en pensant pas qu'ils allaient commettre un drame, tout simplement. Parce que la bécane a été prise sur le côté.
D'accord.
Sur le côté, c'est pas sur... Voilà, c'est au milieu. Parce que la route de devant, elle n'est pas voilée. Si c'est un choc frontal, ça y est, ça tournait, le guidon, il était normal. Parce que quand vous voyez l'état de la voiture de la police, ça veut dire que si c'est un choc frontal, il ne remet plus de roue. Ça veut dire, à la minute, même les pneus, ils ont été crevés, des voilés. Mais là, la route de devant était bien. Et ça veut dire qu'on les a pris en plein fouet, boum, comme ça. Soit c'est eux, peut-être les jeunes, ils n'ont pas respecté, c'est vrai, la priorité à droite, mais eux aussi, ils roulaient une allure excessivement très, très, très vite.
Ils ont été contrôlés par la police en tout début d'après-midi. Il n'y a pas eu de problème, la moto n'était pas volée, ils étaient en règle, ils étaient assurés, etc. Et ils ont été recontrôlés ensuite, lorsqu'ils sont revenus, c'est-à-dire quand ils rentraient chez eux, je pense, ça va être vers 16h. Et là, évidemment, il y a eu engueulade parce que les mêmes flics ont contrôlé les mêmes jeunes, leur ont demandé les mêmes papiers, ont fait les mêmes...
Le face-à-face, ce soir encore, entre émeutiers et policiers à Villiers-le-Bel, la commune vit sa deuxième nuit de violence. Près d'une centaine de jeunes encagoulés jettent des projectiles sur les forces de l'ordre qui répliquent à coups de flashball et de gaz lacrymogène. Au cours de ces nouveaux affrontements, deux policiers ont été blessés. Plusieurs véhicules, dont une voiture de police, ont été incendiés. Ce soir, une bibliothèque est en flammes.
Les casseurs seraient à peu près 300 sur place ce soir, mais qu'ils agissent par petits groupes et de manière sporadique. Ils s'en prennent aux bâtiments publics et aux voitures. Comme vous l'avez vu, une bibliothèque a été incendiée. Une école près de la gare a également été l'objet d'un incendie. Et on a également parlé d'une tentative d'incendie sur la mairie.
Pour autant, ça reste un petit peu tendu, évidemment. Il y a eu quelques feux de poubelle, vous l'avez dit, quelques voitures de brûlées. Et puis à l'instant, il y a quelques minutes, une escouade de CRS s'est fait tirer dessus avec des pistolets à grenaille sans qu'ils aient pu identifier les tireurs. Mais on ne peut plus du tout parler de situation d'émeute ou d'insurrection comme c'était le cas encore hier soir. Huit jeunes ont été interpellés et écroués. Pour deux d'entre eux, ils ont déjà été condamnés. Le premier est âgé de 26 ans. Il a écopé de 10 mois ferme pour avoir jeté des pierres sur les forces de police. Un second, âgé de 20 ans, a également été condamné à 10 mois ferme.
Et si les gens étaient les responsables, que ce soit politique ou autre, soient réellement punis, quand on est puni, c'est façon de parler, à ce moment-là, il n'y aura plus d'insurrection à Villiers-le-Bel.
Mais dans nos rues, c'est la police qui tue. Darami Chameau, mort pour rien. C'est des bougnats, mort pour rien. Si un flic meurt, sera pour quelque chose. Darami Chameau, mort pour rien. C'est des bougnats, mort pour rien. Si un flic meurt, sera pour quelque chose.
Le 18 février 2008.
Descente de police, ce coup de filet, cette opération policière en banlieue parisienne.
En effet, donc hier, 1000 policiers ont débarqué dans cette petite ville de Villiers-le-Bel, en banlieue parisienne, qui il y a 3 mois s'était embrasée. 35 personnes ont été arrêtées, mais ce qui retient surtout l'attention aujourd'hui, c'est les dizaines et dizaines de journalistes qui étaient présents sur place, avant même la police parfois.
Il a dit qu'est-ce qui se passe, ils ont dit on vient chercher Mamadou. Mon père il a dit pourquoi, ils ont dit ils disent pas. Et alors mon père il a dit ben non. Vous avez déjà tué notre frère Laramie, maintenant vous voulez encore prendre Mamadou. Mon père il a dit non. Ben, alors c'est là qu'ils ont commencé à pousser. Ils ont tout cassé, ils nous ont tous tapé, ils ont poussé mon père, il est tombé sur le fauteuil. Ils ont poussé ma mère elle avait mon fils sur le dos. Ils l'ont fait tomber mon fils de 6 mois, il avait 6 mois, ils l'ont cogné sa tête. Oh, au moins 30 personnes, jusqu'à en bas, c'était rempli ici, ils étaient venus avec des boucliers comme ça qui ont été des terroristes. Il y avait au moins 30 personnes, tous cagoués avec des gros masques, tout ça.
Bon, c'est des mains, on cherche des Mamadou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, on cherche Mamadou, c'est pas la peine qu'on quitte. On est venu chercher. C'est des Mamadou, il est là, il bouge pas. Vous avez tué l'armée. C'est mon fils. Mamadou, c'est mon fils. Donc on n'est pas venu chercher Mamadou, on est venu chercher ça moi-même. Faut me tuer, comme ça on va quitter. Parce que son père qui l'a fait le problème. Son père qui l'a un assassin, et ça, son père qui l'a un voleur. Depuis qu'il est venu en France, c'est pas travailler, hein. C'est sûr un voleur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'entendait le français, ils disent. C'est sûr un voleur. Donc maintenant, si vous voulez savoir si le mangasa qui s'est cassé, ou les gens qui se volaient, ils vont me dire.
Villiers-le-Bel,
me revoilà, même combat dans
ce ma belle.
Bonne mère 3. Ça fait plus d'un an qu'un tragique événement. La place est en tête qui me parade. C'est une histoire de malade. Jusqu'à présent, aucun expert n'a pu clarifié ce mystère. Pendant ce temps, on fait le procès cet été. De jeunes clients blessés, des agents armés, mais pas celui des policiers qui ont tué deux enfants sentiment d'injustice chez certains habitants. Justice.
Un mois de solidarité avant le procès du 21 juin 2010.
Alors l'actu du jour concernant Villiers-le-Bel, c'est que les policiers poursuivis pour avoir fauché deux adolescents en mini-moto avaient bénéficié d'un non-lieu.
Ce qu'on essaye de faire, c'est un procès pour l'exemple, pour arrêter toute tentative de révolte dans les banlieues. Mais c'est pas quatre personnes, c'est un événement qui s'est passé à Villiers-le-Bel. C'est des jeunes qui se sont révoltés contre la police, contre l'occupation de leur vie par la police. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on se penche un peu sur le dossier, dans le dossier, on voit que les seules choses qu'il y a à charge contre les cas inculpés, c'est des témoignages qui ont été recueillis après les incidents de Villiers-le-Bel. La préfecture du Val-d'Oise avait distribué des prospectus dans la rue en demandant aux gens de témoigner anonymement et de manière rémunérée. C'est-à-dire qu'on a distribué plusieurs milliers d'euros pour avoir des témoignages de gens qu'on accuse d'autres d'avoir tiré sur la police. Et dans un procès en assise, ça nous semble à la fois un peu léger et assez scandaleux que les seules preuves qu'il y ait, ce soit des témoignages de gens qu'on a payés. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'au printemps, dernier, il y a déjà eu les procès des émeutiers qui étaient accusés d'avoir jeté des pierres contre la police. Et ces jeunes gens-là ont pris des peines de prison en moyenne à peu près 3 ans ferme. Et j'ai vraiment pas l'impression que qu'il y a une réalité entre les faits qui se sont produits et ce que la justice a ordonné comme sentence. Donc non, on n'a pas vraiment confiance en la justice.
En tout cas, ouais, en même temps, c'est pas la guerre.
C'est une grande question. Est-ce que c'est la guerre? Entrer dans la rue, c'est c'est l'occupation policière, des centaines de flics, des quarts de CRS là-bas qui patrouillent. Une occupation policière aussi intense sur un territoire, je pense qu'on n'est pas loin d'appeler ça la guerre.
On va faire un petit topo rapide pour ceux qui ne savent pas pourquoi on est là. Donc Respect, Vérité, Justice, c'est l'association qui a été créée suite aux événements de novembre 2007 à Villiers-le-Bel. Donc il y a deux jeunes qui sont morts en moto, Laramie et Maxime, Nahmoud. Et 2007, c'est aussi les émeutes. Donc ces deux événements ont été instruits par la même personne, la même juge, mais de deux manières différentes. On a d'une part des policiers qui ont écrasé deux gamins, volontairement ou involontairement, on s'en fout, ils n'ont pas été mis en examen. Et de l'autre côté, on a quatre personnes, sans preuve, sans témoin oculaire, sans ADN, sans empreinte, sans armes, juste avec de la délation, c'est-à-dire qu'on les a dénoncés, et encore c'est anonyme. Donc ils bénéficient de la présomption d'innocence et aujourd'hui ils sont incarcérés, ça fait 2 ans. Et le 21 juin, c'est leur procès. Donc aujourd'hui, on les soutient.
Et voilà, on revient à Saint-Étienne. On va peut-être refaire une espèce de chronologie pour resituer précisément les faits qui sont déroulés pendant ces mois passés, ces années passées même. Bon, un peu juste pour commencer à resituer géographiquement, on est bel et bien dans la région parisienne, dans le Val d'Oise, au nord de Paris. Les villes emblématiques du Val d'Oise, c'est Sarcelles, Argenteuil. Et donc aujourd'hui, Villiers-le-Bel, en 95, c'était une région presque calme. Il ne s'est pas passé plus de choses ni de moins. Pas en 95, en 2005, il ne s'est pas passé plus de choses là qu'ailleurs. Pourtant, deux ans plus tard, le 25 novembre 2007, il va en être tout autrement. En fait, en une fin d'après-midi, une voiture de flic percute une mini-moto sur laquelle étaient montés deux ados, Mohsin et Laramie. Ils meurent tous les deux sur place quelques minutes plus tard, malgré l'arrivée des pompiers et d'une ambulance. Les flics et donc la justice par la suite vont essayer de justifier ces morts, notamment en expliquant que c'est la faute des motards qui avaient refusé la priorité à la voiture de police et que en plus ils s'étaient fait les policiers attaqués par une foule qui avait détruit la voiture. Mais ils ont eu un problème, deux problèmes majeurs, c'est qu'il y avait eu des vidéos qui ont été tournées juste après l'accident et qui montrait un peu ce qui avait pu se passer, au moins par le résultat. Et surtout, c'est qu'ils étaient au plein milieu de la cité et qu'il y avait les habitants qui étaient là et qui ont pu constater ce qui avait pu se passer. Et notamment, et c'est les habitants, ces témoins, c'était les habitants du quartier là où habitaient ces deux ados. Et ils ont humiliés ou en tout cas pas considérés face aux explications de la police et de la justice. Et en tout cas, les circonstances de l'accident restent floues, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la police, elle a menti et que sa thèse n'a jamais tenu la route. Et c'est une des raisons qui a fait que la colère est montée et qu'elle est montée vite et fort. Et le premier à en faire les frais, ça va être le commissaire divisionnaire de Sarcelles, qui arrive sur place quelques minutes après que les deux ados aient été emmenés à l'hôpital. Et à ce moment-là, il est le seul policier sur place parce que tous les autres ont fui face à la tension qui montait et tout ça. Il a tenté une médiation, mais qui a lamentablement échoué. Et il sera le premier d'une longue liste de flics qui vont être blessés. Sa voiture, elle va être détruite direct et il sera bastonné et mis KO à coups de barre de fer. Et c'est le point de départ de la première nuit d'émeute, celle qui se déroule du 25 au 26 novembre. Elle est la moins violente des deux, elle va durer 6 heures. En gros, les policiers feront un bilan d'une vingtaine de voitures et de nombreuses poubelles cramées, mais aussi et surtout le poste de Villiers-le-Bel sera incendié, ainsi que de nombreux magasins. Ils ont commencé à se rassembler au début de la soirée, les flics devant le gymnase, et se sont fait, qui est à peu près à 600 mètres du lieu de l'accident, ils se sont fait directement attaquer et assez violemment. Les émeutiers sont extrêmement mobiles, ils sont partout, non seulement dans Villiers-le-Bel, mais dans les communes alentours, et notamment à Arnouville, où le commissariat est saccagé, et à Gonesse, où une station-service est incendiée. Et ce soir-là, dès qu'une patrouille tente de rentrer dans la cité, ils se font accueillir dans un premier temps par les insultes d'à peu près tous les habitants et ils doivent en ressortir sous les plombs tirés à coups de fusil de chasse. La journée passe en repos pour les émeutiers l'émeute reprend dans la nuit du 26 au 27 novembre. C'est là où l'affrontement va monter un peu d'un cran. Elle va être plus courte, mais plus intense, et c'est celle qui va laisser les plus mauvais souvenirs aux keufs. Les syndicats de police parlent à la fin de cette nuit de 77 policiers blessés, dont 5 grièvement. Ils ont été très nombreux, parce qu'il y a eu de nombreux renforts qui sont arrivés après la première nuit où ils ne voulaient pas revivre. Mais en fait, ça va être pire pour eux. Et par exemple... On peut s'appuyer sur un récit qui a pu être fait dans les colonnes du Monde. Alors évidemment, les journalistes, ils cherchent des chefs, ils ont une vision assez stéréotypée de la division du travail dans une émeute, mais des infos échappent au milieu de ce brouhaha et on peut en tirer quelques infos. Donc voilà, à peine les premiers lampadaires allumés, les jeunes attaquent les policiers avec des pavés, des feux d'artifice et des pétards mammouths, les plus gros. Dès qu'un policier est touché, les garçons fêtent ça, les bras levés au ciel. Même cri de victoire quand ils reculent. Pendant 3 heures, une poignée de meneurs répètent ces mots d'ordre « Restons groupés, solidaires les gars ». Les petits jouent les éclaireurs, ils débusquent les flics et jettent les cocktails Molotov. Les grands veillent à ce que la voie soit libre. Pour enflammer voitures et magasins, ils se ravitaillent au réservoir de 3 voitures où sont remplis les jerrycans puis les bouteilles de verre. Un gaillard en survêt noire, talkie-walkie branché sur une fréquence de la police, guide l'équipe. Certaines femmes jettent de l'eau du balcon de leur HLM pour soulager les yeux rougis de leur fils. Quand la police charge, certains étages n'hésitent pas à la caillasser. Au sol, toute arme est bonne à prendre, une multiprise, une épée, un fusil à pompe, mais la plupart se battent avec des bâtons en bois et des barres de fer chippées dans les chantiers. Tas de pierres et de poubelles bloquent certaines routes, comme des checkpoints de fortune. « La guerre, c'est ça, mon pote, c'est faire tourner en rond l'ennemi », lance un meneur, s'improvisant général. Comme la veille, certains magasins, certaines concessions automobiles passent à travers les flammes. Donc on peut le voir à peu près, il y a un degré d'organisation et cette organisation va beaucoup impressionner les flics. Et jusqu'à tel point que 2 ans après, au cours des premiers procès contre les émeutiers, un cadre de la police nationale va revenir sur ces événements. Et il va le dire en substance, les émeutiers étaient très bien organisés, se sont rassemblés, ont récupéré des armes et se sont dirigés vers des lieux publics pour les incendier et attaquer les agents de l'État. Les policiers remarquent rapidement que leurs adversaires recherchent inhabituellement le contact. Tout le monde a été surpris par le degré de préparation des jeunes. Ils emploient le téléphone mobile pour se communiquer des infos et se déplaçaient constamment pour chercher à surprendre les forces de l'ordre. Il s'agissait d'individus déterminés qui avaient prémédité leur action en stockant des pierres et des cocktails Molotov et en organisant des guet-apens. Et le flic de conclure, c'est la première fois que l'on a vu autant de blessés sur un si petit périmètre. Donc ils ont eu chaud, les flics, et ils n'aiment pas ça. Et la justice et les pouvoirs le comprennent bien. C'est pourquoi Villiers-le-Bel est devenu depuis un espèce de champ d'expérimentation et d'analyse sur la question du contrôle des populations. On peut le constater à peu près à partir de 3 faits. D'abord, grâce aux super méga opérations médiatico-policières, et là, c'est notamment celle qui a eu lieu 3 mois après les émeutes, là, en février 2008, où à peu près 1500 flics soutenus par des hélicos et une armée de journalistes envahissent la cité, enfoncent des portes et arrêtent 33 personnes. Le deuxième fait, c'est qu'il y a une utilisation d'une nouvelle arme juridique, des appels à témoignages contre les émeutiers avec une récompense à la clé et plusieurs milliers d'euros qui s'élèvent à plusieurs milliers d'euros et une garantie de l'anonymat. Et enfin, on le voit aussi après les résultats des procès, 10 personnes vont être condamnées de 1 an à 3 ans de prison pour de simples jets de cailloux sur des policiers. Et à ce moment-là, les preuves, ils n'en avaient pas. Les seules choses qu'ils avaient, c'était ces fameuses délations payées et anonymes. Voilà pour finir un peu cette petite chronologie. On peut dire qu'il y a toujours 5 personnes en prison qui attendent, entre guillemets, leur procès. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans maintenant.
Ouais, leur procès débutera le 21 juin. Et ce procès est assez important parce que c'est un peu une des premières fois qu'il y a une telle judiciarisation des émeutes en France. Puisque avant, quand il y avait des émeutes dans les années 80 et 90, la tendance était plus à arrêter des gens mais les relâcher immédiatement pour éviter une montée en pression. En 2005, il y a eu déjà un premier seuil qui a été franchi où systématiquement les gens qui se faisaient arrêter se faisaient condamner en comparution immédiate et prenaient des peines très rapides pour essayer là de calmer la révolte par la répression. Et là, il y a un nouveau pas qui est franchi en 2007 avec Villiers-le-Bel où il y a eu 2 temps, un premier temps de comparution immédiate et ensuite un second procès où là, ce sont des gens qui ont été jugés et condamnés pour jet de pierre pour la police. Sur la police, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont pris 3 ans ferme pour jet de pierre sur la police. Et là, il y a encore un deuxième temps à ce procès, c'est les assises. Il y a quatre personnes qui vont être déférées aux assises, donc le 21 juin, donc des gens qui sont en prison déjà depuis 2 ans, en prison préventive, et donc ils vont être jugés aux assises, ce qui témoigne bien d'une volonté de donner aux émeutes une dimension directement judiciaire, politique, d'en faire quelque chose de grave et de sérieux.
Criminel, quoi.
Oui, une criminalisation. Donc ils vont être jugés pour tentative d'homicide sur des policiers. C'est des gens qui risquent de prendre 15 à 20 ans de prison. Et les enjeux sont montés aussi, puisque pour réagir à cette nouvelle réalité judiciaire des émeutes, pas mal de gens en France ont décidé d'être solidaires des incarcérés de Villiers-le-Bel et d'organiser une tournée de soutien un peu partout en France pour récolter de l'argent, pour payer les avocats, puisque ça coûte très cher, et aussi pour simplement faire parler de cette histoire et briser l'isolement dans lequel les médias et le pouvoir voudraient enfermer Villiers-le-Bel. Et immédiatement, comme on pouvait s'en douter, les syndicats de police ont réagi, puisque le 15 mai, le syndicat Unité CGP Police de Rouen a demandé au préfet de Rouen d'interdire le premier concert de la tournée, qui avait lieu le 19 mai. Les policiers ont même menacé de faire une manifestation devant la salle de concert. Donc, chose quand même assez surprenante. Ils ont sans doute reculé devant l'absurdité de ce qu'ils proposaient de faire. Le concert a bien eu lieu le 19 mai à Rouen. Damon One de la Mafia Quimfrie a joué dans une ancienne église à Rouen. Et le concert s'est bien passé. Ensuite, il y a eu une discussion à Nantes, un autre concert de rap à Rennes. Il y aura des discussions à Marseille. Et en tout cas, tout ça ne va pas s'arrêter là, puisque le procès aura lieu pendant l'été, en pleine Coupe du Monde. Le délibéré aura lieu aussi dans l'été. Et la solidarité continuera après le délibéré.
Il y a une manif le 19 juin.
Il y a une manif le 19 juin à Pontoise, juste avant le procès, pour essayer de montrer qu'il y a du monde derrière les inculpés de Villiers-le-Bel. Et ici, à Saint-Étienne, il y aura aussi des activités en soutien, en l'occurrence le festival de hip-hop underground, qui sera en partie dédié en soutien à Villiers-le-Bel, avec notamment la projection d'un nouveau film sur Villiers-le-Bel qui s'appelle Film Cousin.
Et puis, on va passer un peu de musique.
Ouais, sinon on peut discuter encore un petit peu hein, jusqu'à midi et demi avant la musique.
Le son qu'on va passer, c'est un des titres qui a été pointé par les syndicats de police comme étant, comme témoignant du fait que Villiers-le-Bel, c'était pas simplement des victimes de la police, les deux morts victimes de la police, mais des gens qui se révoltent et qui incitent à, comme ils disent, les policiers, à la guerre civile, à la haine et à la révolte contre les forces de l'ordre.
Par exemple, ce qui est contradictoire, c'est que les policiers, dans leurs arguments, c'était donc ils étaient contre les concerts et le mois de solidarité, parce que c'était, ils disaient, c'était un appel à l'émeute ou un appel à tout ce qu'on veut, un appel à tuer du flic. Mais en fait, soutenir des émeutiers, mais il y a aussi la fameuse présomption d'innocence, et donc ils sont pas encore coupables, les gens, jusqu'à preuve du contraire, donc ils ne peuvent pas trop dire... Enfin, c'est contradictoire de dire on fait du soutien à des gens qui ne sont pas encore désignés coupables. Donc, c'était un peu contradictoire. Je pense que ça aussi, ça a joué dans la balance.
Et ben du coup, on va faire une petite pause, on va s'écouter un son justement du 95, et c'est Abou de Nerf qui nous chante Antiport.
Je rêve de ce qui est pas le pas, le décoller. J'ai toujours un slap dans le cartable. Ces consumés veulent nous contrôler. Leur c'est sans poids sur le pare-balles. Un compte pas dans l'aïe au portable. Dans l'équipe, tout le monde est pisté. Fils, ça nous rend parano. Dans la street, y'a trop de kisdés. Contrôlé 24/7. Anti-pleu depuis la poussette. Baisse en roi de mes deux. J'en donne sa gueule à la route snake. Ma fille est à l'écoute. P.A. la Rami et Mouzi. Accident, j'en doute comme l'amour de l'Occident à la Chine. Bâtard de fasciste, une fois égorgé, c'est le barbat. Au chicken, au KFC ou dans un
snack dans toutes les super et ça. Dimanche 25, y'a eu de la criade. Que des gens normaux, monsieur l'agent Noriel d'une triade. Tire de chevrotine, ça vise de crâne, pas les rotules. Voilà ce qui arrive quand on fait face à l'imposture. Pareil que ça grosse dure, les côtes dures, je crains pas la matraque. Loin d'être un casseur, je crache ma colère dans les bacs, bâtard. Qui reflète ma douleur, mon son, mon état d'esprit. T'as qui reste ma couleur, même en taille, ça porte gris. Atropion, c'est dans les maquis. La peur devient une prostite. Bac plus street, maintenant j'éclaire comme Zelensky. La morale est à l'hospice, les flingues assurent la chorale. Dans la piche, bang your love and peace. Ici c'est ok, chorale. Do LV, Cassos, arabe, turduk sous Blackos. Même les noix sont à l'appel, puis le bel locos. Tous les blocos sont unis pour la prise et les ailes. Madame la juge réclame son cuni pour adoucir les peines. Les frérots enfermés et le petit frère parti. C'est quand la France va cramer que le peuple prendra plus parti. Ils ont masqué la mort des petits par les tirs et les caisses calcinées. Le journal nous parlait tous sauf des assassinés. Donc je reviens piner leur justice avec un seul mot d'ordre. Vive ma république, anti-force de l'ordre. Hey.
Anti-poids négro, anti-anti-poids négro. Anti-poids négro, anti-anti-poids négro. Anti-poids négro, anti.
Qui putain, il est cabriolé tout neuf.
Anti-poids négro, anti-anti-poids négro. Anti-poids négro, anti-anti-poids négro. Anti-poids négro, anti.
Qui putain, gagne un cabriolet tout neuf.
Pas l'habitude de se laisser faire. Ce que vous avez fait va vous coûter très cher. Parce que vous oubliez, je pense que nous avons oublié. Que de vivre va très cher.
Et bon, bonjour, on est, vous êtes bien sur Radio Audio 89.5 FM. Vous écoutez l'émission du numéro 0. Voilà, on vient de s'écouter Aboudner qui a participé à la soutien, qui participe à la tournée de soutien aux émeutiers de Villiers-le-Bel. Et donc voilà, juste pour ajouter quand même que la tournée elle continue, que notamment elle passe les 7 et 8 juin à Marseille, et que voilà, si vous voulez vous tenir au courant de ce qui se passe, il y a un site qui s'appelle soutien-villiers-le-bel.com. Voilà. Donc, à Villiers-le-Bel, il y a eu une des manières à réagir face à la police, qui s'est ensuite organisée pour se poursuivre dans le temps. Et d'autres face aux violences policières, d'autres solutions existent, et notamment la caisse de ce qui s'est coutume d'appeler une caisse de solidarité. Et nous accueillons aujourd'hui dans nos studios un des membres de la caisse de solidarité de Lyon pour nous en parler et voilà, parler des activités.
Ouais, alors tout comme les émeutes et les violences policières semblent être vraiment symptomatiques de l'époque, il y a des outils pour s'organiser face à ces violences qui peuvent nous aider et qui commencent à se construire un peu partout en France, à savoir ces caisses de solidarité. Alors à la base, les caisses de solidarité, elles naissent des comité de soutien qui se crée suite à des arrestations particulières sur tel événement, telle manifestation ou tel mouvement social. Donc, par exemple, pendant le CPE, il y a eu beaucoup d'arrestations, ou déjà avant, il y a eu des manifestives qui ont soi-disant dégénéré, comme disent la police, mais qui débouchent sur des arrestations. Et la pratique, c'était souvent de faire un comité de soutien à un tel, ou un comité de soutien aux incarcérés de telle histoire. Et par exemple du CPE, ensuite il y a eu les révoltes dans tous les centres-villes de France suite à l'élection de Sarkozy, ce qui est quand même un inédit. Ensuite il y a eu le mouvement contre la LRU, le premier et le deuxième, à chaque fois donc des dizaines d'arrestations. Et ce que permet une caisse de solidarité, c'est d'assurer un suivi et une continuité entre ces différentes arrestations, et ça évite de sortir des comités de soutien particuliers Et ça évite d'avoir tout à recommencer à chaque fois, c'est-à-dire recréer un compte, réécrire des textes expliquant ce que c'est la répression, comment on peut y réagir, retrouver des contacts, etc. Donc c'est l'outil qui permet de prendre acte du fait qu'avec un président comme Sarkozy, la répression, ce n'est pas simplement quelque chose de secondaire, comme si c'était un accident par rapport aux luttes qu'on mène, quelque chose qu'il fallait gérer sur le côté en plus. C'est devenu quelque chose de central. Et donc, on s'organise face à ça de façon la plus décisive possible. Donc, pour ça, a été créé un compte en banque, en tout cas à Lyon, avec un contact, dont un numéro de téléphone portable qui est ouvert en permanence, qui est relevé en permanence par les personnes du collectif et qui sert particulièrement lorsqu'il y a des manifestations. Par exemple, quand il y a eu la manifestation antifasciste à Lyon, le téléphone portable était tenu par quelqu'un au cas où il se passait quelque chose. Puisque l'intérêt, quand on contacte la Caisse de solidarité, c'est que nous, à la Caisse de solidarité, on a réussi à tisser un petit peu des contacts avec quelques avocats qui sont pas trop pourris, qui sont en tout cas un peu plus sympas que d'autres, c'est-à-dire qu'ils prennent pas trop cher. Parfois, il y a politiquement une petite entente. Et surtout, ils voient très bien que depuis leur position d'avocat, ils peuvent aider des gens qui peuvent être dans la détresse quand ils ont un proche qui vient de se faire embarquer, qui est en garde à vue, une garde à vue prolongée de 48 heures, par exemple. Là, on a vraiment besoin de personnes qui ont les pieds un peu plus dans la justice et dans le système police, justice, prison pour pouvoir nous donner des renseignements sur telle personne, comment elle va sortir, etc. Donc voilà, pour financer ces activités, la Caisse de solidarité organise des concerts de soutien, des repas de soutien, des projections, etc. Il y a tout un travail aussi de la Caisse de solidarité qui consiste un petit peu en de l'information et de la prévention, c'est-à-dire des conseils en manifestation, par exemple les conseils de base qu'on donne qui sont de jamais arriver seul en manifestation, ne pas bouger seul en manifestation, ne pas partir seul, bref, se tenir ensemble. De l'information aussi sur l'équipement des policiers, quel type d'armes ils utilisent, comment ils interviennent en manifestation. Voilà. Et une histoire qui occupe beaucoup la Caisse de solidarité de Lyon et pas mal de monde à Lyon en ce moment, c'est la mort de Imut, un jeune de Vaux-en-Velin, qui a été tué en Suisse d'une balle dans la tête. Alors, son histoire est assez classique parce que ce dont on parle aujourd'hui, il faut bien voir que ce n'est pas des accidents. À la fois, il y a quelque chose de vraiment exceptionnel, par exemple, dans Villiers-le-Bel, il y a de l'inédit historique, mais il y a aussi quelque chose de structurel. Par exemple, quand tu parlais d'Argenteuil au début pour dire que c'est une des villes de la banlieue nord, l'été dernier, il y a un Algérien de 60 ans qui est mort suite à une interpellation à Argenteuil. Il y a eu un mort à Lille, pareil, suite à une interpellation. Il y a eu un mort à Grasse, d'une clé d'étranglement, on s'en rappelle. Il y a eu un mort à Firminy, il y a eu un mort à Vaux-en-Velin. Et tout ça, c'est pas sur les 15 dernières années, ça c'est sur les derniers mois. Donc c'est vraiment quelque chose de récurrent, c'est pas quelque chose d'accidentel. Et l'histoire de ce jeune de Vaux-en-Velin, elle est assez classique. La Suisse, pays de gros riches, de gros bourges, dans lequel il est facile, quand on a un petit peu de pratique d'auto-organisation, de sortir du matériel. Trois jeunes de Vaux-en-Velin, très jeunes, 18-19 ans, décident de braquer un concessionnaire Audi et de sortir trois voitures. Sauf que cette fois-là, ça se passe mal. La police décide de prendre en chasse, est prévenue, arrive à prendre en chasse une des voitures. Les deux autres arrivent à s'échapper, les deux autres voitures. Une des voitures est prise en chasse. Dans la voiture, il y a deux personnes, un conducteur et Imut qui est sur le siège passager. Les policiers organisent un barrage dans un tunnel. Ils savent où va passer la voiture puisqu'ils sont sur une autoroute. Il n'y a pas 36 possibilités pour rentrer en France. Donc une voiture de police se planque dans un tunnel, pose une herse, donc ce qui permet de crever les pneus d'une voiture, et un des policiers, donc il y a deux policiers, un des policiers sort un fusil mitrailleur. Donc pas une arme de poing, pas une arme comme ça qu'ils ont juste pour assurer leur défense, il sort un fusil mitrailleur qui est, l'analyse le dira après, qui est verrouillé au coup par coup. La voiture s'engouffre dans le tunnel, les pneus sont crevés par la herse, donc apparemment elle se bloque contre la rambarde, et à ce moment-là, pendant que tout ça se passe, le policier tire 7 balles sur la voiture. Donc 7 balles au coup par coup, faut imaginer ce que ça représente. 7 balles de fusil mitrailleur, c'est pas du tout donc la dimension accidentelle de un policier qui tirerait avec son arme de poing sur quelqu'un qui serait en fuite et qui par malheur le blesserait. C'est pas non plus une course-poursuite qui finit mal avec la voiture qui prend un poteau et qui fait un mort. Le policier tire 7 balles de fusil mitrailleur coup par coup, 4 balles dans le pare-brise, et Imut prend une balle en pleine tête entre les deux yeux. Donc ça relève vraiment de l'exécution. D'ailleurs, quelques temps avant, un jeune de Vaux-en-Velin était rentré avec une balle dans la jambe. Il avait tenté apparemment de voler une moto, il était rentré avec une balle dans la jambe. Et il y a, semble-t-il, une vraie consigne de la police, dans la police suisse, qui est de dire que maintenant, les racailles françaises qui viennent voler les richesses helvétiques, il faut tirer dessus. Il y a vraiment un rapport politique qui est assumé. Bon, déjà, les douaniers... et la police suisse a des prérogatives qui sont plus fortes que les policiers français. Ils ont le droit de tirer. Il n'y a pas longtemps, en 2001, un policier suisse a tué encore un autre voleur de voiture français. Le policier a tiré, je crois, 12 balles dans la voiture. Il a tué le Français qui avait volé la voiture. Et il sortait de cette voiture, la compagne du chauffeur et voleur de la voiture et leur bébé. Donc, ce qui témoigne bien du fait que voilà, la police suisse... assument vraiment un rapport de guerre face à ce qu'ils appellent la racaille française, le banditisme français. C'est vraiment une mentalité d'assiégé contre les Français. Il suffisait de lire la presse juste après la mort d'Imut, donc qui a subi une véritable exécution. C'était tout de suite, on voit bien que c'est des délinquants, ils avaient un casier judiciaire, d'ailleurs ses frères aussi ont un casier judiciaire, etc. Autre signe du fait que c'est vraiment la guerre, lorsque le frère jumeau de Imut est venu en Suisse avec sa famille pour récupérer le corps, pour qu'il puisse être enterré à Vaux-en-Velin, le frère jumeau, Erdal, a été arrêté. Les douaniers l'ont pris à la famille pour dire que c'était soi-disant un contrôle routier, et il est aujourd'hui toujours en prison, il est en prison à Fribourg. Donc il faut imaginer ce que ça représente, un frère jumeau, ces deux-là ils étaient toujours ensemble. Il se fait tuer son frère et lui, il se fait arrêter dans la foulée. Que ce soit pour la famille ou pour lui-même, c'est vraiment une déclaration de guerre totale de la part du pouvoir suisse. Donc aujourd'hui, il y a en prison Erdal et Younous, le conducteur de la voiture qui a vu son pote se faire exécuter juste à côté de lui. Les deux sont en prison. Pourquoi ? Parce que le pouvoir suisse a besoin de criminaliser cette affaire, de se dire si on a tué son frère, c'est bien parce que c'est des criminels et c'est pour ça qu'on arrête l'autre, pour montrer que c'est pas un accident, qu'on a arrêté des gens qui sont dangereux et que ceux qui ont survécu à cette affaire, il faut les mettre en prison. Sous-entendu, sinon, il faudrait continuer à les tuer s'ils continuent à voler. Donc voilà, à l'enterrement d'Imut, il y avait 500 personnes, les gens des quartiers de Vaux-en-Velin, des différents quartiers, même des quartiers qui sont un peu en opposition depuis des années, sont descendus pour cet enterrement parce qu'ils savent que c'est une famille qui était très connue dans le quartier, connue pour sa bienveillance, etc., à l'égard des autres, les gens du lycée dans lequel était Imut. Donc 500 personnes à l'enterrement. Il y a eu une marche ensuite le 24 avril qui a rassemblé 300 personnes et enfin une manifestation, une seconde marche le 29 mai et ainsi qu'une manifestation à Dijon. Et il y aura sans doute encore des initiatives qui seront prises, ne serait-ce pour sortir Erdal de prison. Donc la Caisse de solidarité de Lyon va essayer d'aider un petit peu à payer les avocats. Il faut savoir que les avocats suisses, ça coûte une fortune. Éclaircir les conditions de la mort d'Imut, oui, il y a un avocat qui est pris pour savoir comment il est mort, etc., et pour demander des clarifications là-dessus, mais c'est essentiellement pour faire pression sur la justice, pour obtenir une libération plus rapide d'Erdal. Et donc voilà, la Caisse de solidarité continuera, je pense, à organiser des initiatives de soutien pour qu'Erdal sorte.
Juste pour faire une conclusion vite fait, en gros... Imut, il a été tué juste pour un vol de voiture et les deux autres sont en prison juste pour un vol de voiture. Quoi. Enfin, c'est le.
Bah ouais. Et pour il y a aussi ce truc qui est quand même bien récurrent, on l'a vu à Villiers-le-Bel et puis là avec avant Vlin et puis on verra avec Firmini, c'est que il y a tout le temps les frères qui se retrouvent en prison. Là alors pas si c'est justement c'est l'occasion de passer pour parler de Firmini. Donc à Firmini, c'est près de chez nous, c'est à côté de Saint-Étienne. C'est à côté de Saint-Étienne et alors l'année dernière, donc le 6 juillet 2009, Mohamed se retrouve en garde à vue et il est mort en garde à vue. Donc on ne sait pas trop, on n'a pas beaucoup de précisions sur les conditions de sa mort. Les policiers affirment qu'il s'est suicidé. Donc qu'il se soit suicidé ou pas, ça change pas grand chose parce qu'il est mort quand même en garde à vue. Donc ça remet juste en cause le fait qu'il y ait de la garde à vue. Donc Mohamed meurt en garde à vue. Il s'ensuit trois soirées d'émeute où il y a une pharmacie, il y a des voitures qui brûlent, des voitures qui brûlent, centre commercial, tout ça qui brûle. Il y a ça qui se passe. Et ensuite, il y a eu une marche silencieuse aussi le 11 juillet à Firmini, qui a rassemblé 300 personnes. Fin août, mois de septembre, le frère de Mohamed Djellali, qui était révolté, qui était en révolte, tout ça, se retrouve subit des contrôles d'identité fréquents. Donc il se fait tout le temps contrôler par les flics à chaque fois. Donc les flics le connaissent, donc ils savent que c'est le frère de Mohamed, la personne qui est mort en garde à vue. Et là, à un moment, donc, il pète un câble et tout ça. Alors il ne sait pas s'il s'est embrouillé, à un moment il s'est révolté et il s'est retrouvé devant le juge pour je crois une fois il s'est barré. Et donc là, après, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris 8 mois de prison, dont 4 mois avec sursis et 4 mois ferme. Donc pour dire que. Et tout ça pour. Oui, voilà.
On peut dire qu'on va en parler plus longuement dans une autre émission spéciale sur cette question-là.
Ouais. Oui, on va en parler plus longuement. Et puis, je voulais juste revenir sur un témoignage. On a discuté un petit peu avec une dame qui travaille à Villiers-le-Bel.
Firmini.
Et qui reliait un petit peu ces affaires-là de violence policière et qui avait un point de vue qui relativisait un petit peu ce qu'on appelle les violences urbaines, les émeutes, tout ça, pour dire qu'en fait, c'est de la révolte et c'est normal de se révolter. Donc, témoignage.
On voit le traitement médiatique qui a été fait de Firmini. Moi, ça jette carrément le doute sur la manière dont les événements de Villiers-le-Bel ont été relayés ensuite. Parce que nous, quand on a vu ça et qu'on était tous d'accord pour se dire qu'on reconnaissait absolument pas ni le quartier dans la description qui en était faite, ni les gens... Alors effectivement, moi quand je voyais les retours sur Villiers-le-Bel, je me dis ah oui, non mais là-bas quand même vraiment ça a l'air chaud. Mais quand je vois la manière dont Firmini a été traité, peut-être que c'est pas beaucoup plus difficile que Firmini et que le regard des médias transforme carrément les choses. Donc au contraire, moi ça m'inciterait plutôt à relativiser la violence dont on parle du point de vue des jeunes, tout ce qui relève de la délinquance, etc. Je veux bien, mais pour le coup, moi, ça m'incite plutôt à relativiser parce que j'ai vraiment l'impression que le regard d'un journaliste, ça peut totalement transformer et changer la donne sur une réalité. Ça frappe de doute. Quand on est vraiment au cœur du truc et qu'on voit ensuite le traitement qui en est fait... pour le coup, toutes les informations ensuite qu'on reçoit par la télévision, moi, je les considère vraiment comme... a priori peu crédible ou forcément exagéré. Enfin...
C'est tout ça pour dire que ces violences policières, il y a plein de gens qui ne laissent pas passer tout ce qui se passe, toutes ces morts, tous ces blessés, toute cette pression, toute cette... Enfin, voilà. Et donc, ça se passe, et quand ça se passe, comme par exemple à Vaux-en-Velin, à Villers-le-Bel, les gens, ils ne laissent pas passer, et ils s'organisent pour que ça ne se reproduise plus, et puis ils se révoltent, ils luttent, voilà, quoi. Et c'est pas normal, donc... Voilà.
Oui, ça se limite pas à des procès, mais c'est l'occasion, c'est se saisir aussi de l'occasion pour créer des liens, pour changer de société. Voilà, en gros, vite fait.
Oui, et puis souvent, les gens, quand ce genre d'événement arrive, ils se retrouvent seuls, ils savent pas quoi faire, et justement, faut pas se sentir seul, faut pas être culpabilisé en disant non, c'est nos gamins ou machin, ils sont fautifs, machin. C'est pas normal que... Enfin, faut pas laisser passer ça, quoi. C'est pas
et
normal que...
Un des enjeux, c'est vraiment, donc, comme tu dis, de sortir de l'isolement. Et par exemple, à Villiers-le-Bel, les proches de Laramie et Mouchine ont rencontré les proches de Ziad et Bouna. Donc Ziad et Bouna qui sont morts dans un transformateur à Clichy-sous-Bois en 2005. Et rien que ça, c'est déjà... une offensive en soi et un moyen de réagir et de se défendre contre le pouvoir qui cherche à nous faire crever les uns les autres, chacun dans notre coin, et que déjà les gens se captent entre eux, font des actions de soutien, et qu'il y a une solidarité un peu partout en France quand il y a des cas aussi graves que ça. Ben voilà, c'est le minimum pour faire face à l'État.
Voilà, puis on va passer à l'agenda.
Oui, si vous avez rien d'autre à ajouter, c'est bon. Donc alors, qu'est-ce qui va se passer à Saint-Étienne ces prochains jours? Alors, samedi 5 juin, ça a déjà été évoqué dans une émission sur les ondes de Radio Duo, c'était lundi. Eh bien, il y aura un rassemblement, donc place Jean Jaurès, à 14h30. Pourquoi un rassemblement? Eh bien, pour une nouvelle fois dire non aux expulsions, et réaffirmer le souhait et la nécessité donc d'élargir la résistance, de l'amplifier face aux expulsions des populations migrantes. Donc voilà, bref, en finir avec la machine à expulser et ses lois racistes et nationalistes, xénophobes et compagnie. Donc voilà, alors ce rassemblement, la particularité de ce truc, vous l'avez déjà entendu sur les ondes de Radio Duo, il y a un petit jingle qui passe, c'est un rassemblement qui fait écho en fait à un appel qui a été lancé d'Angleterre par le réseau Stop Deportation, donc déportation qui veut dire en fait expulsion. Voilà, c'est un réseau qui propose donc voilà une semaine d'action entre le 1er et le 6 juin, action voilà sous diverses formes, et qui ont tout en commun l'expression de la lutte anti-expulsion. Stop Déportation a donc lancé un appel européen qui, pour résumer brièvement, dénonce bien l'organisation rentabilisée et puis industrialisée des expulsions, de l'enfermement des migrants, migrantes, et voilà, tout ça en Europe. Tout ça, ça se passe en Europe. Et puis, c'est un appel aussi qui quand même invite à intensifier quand même aussi la lutte. Je ne vais pas vous lire à l'antenne cet appel. Vous pouvez le lire si vous avez accès à Internet. Eh bien, sur leur site, stopdeportation.net, tout simplement. Donc voilà, c'est donc en écho à cet appel que quelques collectifs de Saint-Étienne ont donc décidé d'utiliser l'espace public pour visibiliser les actions locales sur ce thème-là. Voilà, un moment... un lieu pour venir à la rencontre donc de divers collectifs, entre autres le collectif Sans Papier. RESF sera aussi normalement présent. Et il y aura aussi des personnes du réseau de Solidarité Rome, en fait, qui viendront peut-être aussi. Voilà, alors sur la forme, vite fait, il y aura des tables de presse, des écrans pour visionner des documentaires. Une scène musicale aussi, avec entre autres du hip-hop et puis un stand de manucure. Voilà. Donc tout ça, c'est samedi dès 14h30, place Jean Jaurès. Donc voilà, stop deportation, non aux expulsions, fermeture des centres de rétention, etc.
Je peux m'incruster dans l'agenda pour présenter un truc.
Tout à fait.
Donc en fait, le lendemain, dimanche, il y aura l'émission Papillon, donc toujours sur Radio Duo 89.5 FM à Saint-Étienne. Et l'émission Papillon, c'est le premier dimanche du mois. Donc là, ça tombe ce dimanche, le 6. Et c'est une émission contre les prisons qui essaye de donner un peu la parole aux premiers concernés. Et déjà, Papillon participe à cette semaine contre les expulsions. Et surtout, mardi, il y avait une soirée sur la garde à vue et un peu les droits qu'on a et comment on peut se défendre et comment ça peut se passer et comment parfois, si on a un avocat qui tient à peu près la route, il peut faire même annuler certaines affaires parce qu'il y a beaucoup de vices de procédure en garde à vue, etc., etc. Et donc, dans l'émission Papillon de ce dimanche, il y aura un retour là-dessus, entre autres, donc sur les gardes à vue. Et puis, probablement que ça parlera aussi du festival Parole et Musique qui font leur truc là, de pseudo-bonne conscience de la culture en prison, avec leurs ateliers, machin. Et puis, probablement que ça parlera aussi des UHSA, c'est les prisons, hôpitaux qui sont en train d'ouvrir et de se construire. Voilà, donc c'est dimanche 17h30, 19h, comme tous les premiers dimanches du mois.
Alors, j'ai un autre rendez-vous à vous proposer aussi. C'est plus un rendez-vous radiophonique, puisque il y a une nouvelle émission de radio. Ça se passe sur Radio Canu, à Lyon, sur 102.2 FM. Et voilà, c'est une émission qui s'appelle « Faut que ça se sache ». Et c'est une rubrique qui est diffusée les mercredis de 19 à 20h et qui est dédiée aux luttes des sans-papiers. Et cette émission, elle a petite particularité aussi de relayer des infos de l'intérieur du centre de rétention de Saint-Exupéry, près de Lyon, via des appels téléphoniques passés depuis, justement, la cabine téléphonique située à l'intérieur même du centre de rétention. Voilà, c'était juste pour préciser cette nouvelle émission donc qui est sur Radio Canu à Lyon et que vous pouvez aussi écouter sur le site de Radio Canu, dont je n'ai pas l'adresse, mais c'est pas grave, vous tapez Radio Canu et voilà, c'est tout. Et voilà, et ces émissions sont écoutables aussi sur un nouveau site internet qui s'appelle Loi Sauvage également. loisauvage.rebellion.info.
Voilà. Loi Sauvage, c'est un jeu de mots L-O-I-S-S-A-U-V-A-G-E-S.
Alors, il y avait autre chose à annoncer aussi.
Ouais, toujours samedi, je le fais vite fait, mais il y a à 15h, place Jean Jaurès toujours, il y a un rassemblement suite aux attaques là, des bateaux de la flottille de la Liberté, là vous savez, ces militants qui transportaient de l'aide humanitaire vers la Palestine, qui sont fait attaquer par l'armée israélienne, et du coup il y a eu un rassemblement lundi dernier devant la préfecture, je crois, où il y avait genre 250 personnes. Et là, ce samedi, il y a appel à un nouveau rassemblement à 15h. Voilà, pour les activistes chevronnés, il y aura moyen de tout faire dans le même espace, quoi.
Alors, c'est la coutume quand même d'annoncer ce qui va se passer à l'Université solidaire, aussi à Saint-Étienne. Eh bien, le prochain rendez-vous du mois de juin, c'est le mercredi 9 juin. Et c'est une pièce de théâtre, figurez-vous, qui est intitulée « L'indiscipline a triomphé là où le bitume a remplacé les pavés ». Et c'est une représentation qui illustre, si j'ai bien compris, la répression qui a été faite par l'administration de la fac Jean Monnet contre les grévistes. Vous vous souvenez, c'était les grèves de l'an dernier. Donc voilà, ça se passe à l'amphi E01. Je vous rappelle, c'est en face du consulat d'Algérie. Et c'est dès 18h. Voilà, mercredi 9 juin, 18h, pièce de théâtre, Université solidaire. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ?
Bon, allez, super vite fait, il y a un festival punk antifasciste Auvergnat en Haute-Loire ce week-end. Donc c'est vendredi 4 et samedi 5. Et c'est dans un lieu qui s'appelle l'Hacienda à Saint-Jean-la-Chalme. Voilà, c'est à 15 bornes du Puy, à vous de trouver où c'est. Et voilà, il y a genre entre 8 et 10 groupes de punk rock tout le week-end et c'est sous le signe de l'antifascisme.
Encore un petit truc, il y a des gens qui, je pense, connaissent Le Boulon, un célèbre squat lyonnais qui a réouvert et dans lequel il y aura ce vendredi une soirée de soutien à Villiers-le-Bel, une soirée acoustique. Ça s'appelle Villiers-le-Bal et donc c'est toute la soirée au Boulon avec sans doute de la musique zigane qui sera jouée par des Roms, etc.
Bon, on va se quitter doucement en musique aussi. On rappelle le site, tout ça, les machins, les contacts.
Ouais, si vous voulez nous insulter, c'est à emissionradio@fastmail.net. Pour écouter et réécouter l'émission, le numéro 0.l'autre.net. Voilà, et que dire encore
si vous voulez rencontrer la Caisse de Solidarité de Lyon, c'est caissedesolidarité@riseup.net.
Et sinon, pour les gens qui n'ont pas accès à Internet, vous pouvez nous écrire par la poste. Et c'est numéro 0 chez Radio Dio, 14 bis rue de Roubaix, boîte postale 51, 42 0002, Saint-Étienne, CEDEX 1.
Et on va finir par un petit morceau de Pierre Normal qui s'appelle Agent Dormant. Ça déchire, Pierre Normal. Ciao.
Ciao, ciao.
Salut.
Rien ne peut dépasser, rien ne sera avoué, apparence transparente.